Bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcasts. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le troisième épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, mon co-animateur Olivier de Scooter. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et notre invité de la semaine, docteur Hélène Drouin. Salut Hélène.
Salut Hermano.
On a commencé à aborder le sujet hier de ton ascension de l'Everest, dont tu redescends à peine, hein, parce que tu as atteint le sommet le 11 mai. Pas la préparation, on en a déjà un peu parlé hier, mais comment s'est passée cette ascension, les derniers jours avant de monter? Parce qu'on entend souvent, quand on écoute les récits des gens qui ont gravi l'Everest, qu'il y a une grosse phase d'attente au début pour attendre la bonne fenêtre météo, pour passer d'une base à l'autre, avant de pouvoir atteindre le sommet. Comment ça s'est passé pour toi?
Tout à fait, la phase d'acclimatation, elle dépend vraiment de l'individu, c'est-à-dire que si moi j'ai la chance, je tolère très très bien l'exercice physique avec du manque d'oxygène, j'ai quasiment pas eu de maux de tête, quasiment pas eu de fatigue, anormalement grande, donc je m'acclimate très très rapidement. Pour vous donner une idée, par exemple le peak cleaning que j'ai fait en 2018, c'est un 7100 mètres sans oxygène, je l'ai fait en 2 semaines. Bon, on commence à avoir l'oxygène à partir de 7000 mètres, donc c'est pas très, c'était pas très différent. J'avais même plus de temps sur l'Everest que sur le peak cleaning d'ailleurs pour m'acclimater. Donc je pense que ça dépend vraiment de l'individu. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que donc l'équipe avec laquelle j'étais a choisi de faire une acclimatation sur déjà un sommet qui est pas très loin. Donc c'était le Lobuche Peak à 6100 mètres. Et de revenir au camp de base qui est à 5300 mètres. Il faut savoir que l'Everest donc s'organise avec un camp de base à 5300 mètres, puis 4 camps, camp 1, camp 2, camp 3, camp 4. Ce que fait beaucoup de gens, c'est qu'ils vont plusieurs fois dans la même montagne. Ils vont une première fois au camp 1, après ils redescendent, ils vont ensuite camp 1, ils vont au camp 2, ensuite ils dorment et ensuite ils redescendent. Ils peuvent faire 2-3 fois de passage dans la montagne. Mais moi, avec mon acclimatation sur un autre sommet, ça m'avait déjà gagné, entre guillemets, une phase d'acclimatation. Et puis, comme j'étais assez en forme, on est directement passé. En fait, je suis partie qu'une seule fois dans la montagne. Donc ça, ça a été vraiment super, parce qu'il y a vraiment un passage quand même qui présente un risque non négligeable d'accident, qui est du passage du camp de base au camp 1. Ça s'appelle le Combo Ice Fall. C'est le glacier qui est en bloc de glace, et que c'est quand même assez dangereux. Donc c'est pas c'est pas négligeable de passer plusieurs fois dans ce même endroit. Donc c'est mieux de limiter les risques et s'acclimater autrement. Donc d'où le premier sommet à côté. Et ensuite, je suis allée une seule fois dans cette montagne, camp 1, une nuit. Et ensuite, je suis restée 5 nuits au camp 2. On attendait la bonne fenêtre météo. Et ensuite, je suis directement passée pour le sommet. Donc il y a un jour du camp 2 qui est à 6300 mètres jusqu'au camp 3 qui est à 7100 mètres. Ensuite, un jour du camp 3... où on commence à avoir l'oxygène pour dormir d'ailleurs, jusqu'au camp 4, qui est à quasiment 8000, qui est à 7950 mètres. Et ensuite, on arrive, donc au camp 4, je suis arrivée à 15h, et à 21h, je suis partie pour le sommet, donc on enchaîne un peu. Donc le sommet dans la nuit du 10 mai, donc je suis arrivée le 11 mai à 10h du matin, et ensuite redescente le même jour au camp 4, donc ça c'est le 11 mai, et ensuite il faut quand même prévoir 2 jours de redescente, donc du camp 4 au camp 2 c'était le 12 mai, du camp 2 au camp de base c'était le 13 mai. Donc voilà, cette phase, l'ascension, ça dépend vraiment de la forme des individus, et voilà, il se trouve que moi j'étais bien acclimatée et que j'ai pu me permettre de sauter un peu des étapes d'acclimatation qui sont pas sans risque, qui fatiguent et qui sont pas sans risque si on passe dans les passages dangereux.
Attends, ouais, parce qu'il y a alors plein de questions, évidemment, j'imagine que pour toi aussi, Hermano. Bon, moi, c'est un monde qui est quand même assez, assez nouveau aussi pour moi. Tu disais, tu dormais avec l'oxygène ?
Tout à fait. On commence à dormir à l'oxygène au camp 3, donc qui est à 7100 mètres, c'est ça.
Donc en fait, tu as l'oxygène tout le temps, quoi.
À partir de Grand 3, tout à fait en dehors. Alors, il y a des gens qui sont très entraînés, qui font sans oxygène, mais tout le monde le fait. Hein. Tous les guides, toute l'équipe de Népalais font avec oxygène, dorment dès le Grand 3 aussi avec oxygène. Tout simplement, c'est pour la récupération des muscles. C'est pas tellement parce qu'on est essoufflé, parce que quand on dort, on est bien. C'est pour que les muscles soient en forme pour le lendemain. Parce que la montée du Grand 3 au Grand 4 est très physique. Elle est très raide et il y a des passages quand même qui sont difficiles. Et ensuite, on enchaîne quasiment le Grand 4 avec le sommet. En fait, quasiment, pendant 2 jours, on est non-stop quasiment en montée et descente. Donc, c'est surtout pour la récupération des muscles qu'on Grand 3, on dort avec oxygène. Ça, c'est vraiment important.
Et alors, cette dernière ligne droite, donc quand vous passez au Camp 4, et puis assez rapidement.
Elle n'est pas droite, elle est vers le 4.
Oui. Enfin, quand je dis la dernière ligne droite, c'est le dernier petit morceau qui reste, entre guillemets. Parce que vous venez de très loin, mais c'est pas forcément le plus facile, j'imagine. Comment ça se passe?
Alors, chacun définit ce que c'est son sommet. Pour moi, un sommet, c'est non seulement la montée, mais aussi la descente. Et très souvent, il y a des gens qui pensent pas de la même manière. Donc, leur projet, il s'arrête au sommet. Moi, mon projet, il s'arrêtait quand j'étais en sécurité au retour au camp de base. Donc, ma concentration quand je suis à la cime, elle est aussi grande que possible, parce que malheureusement la majeure partie des accidents arrivent en descendant, et parce que les gens s'épuisent trop en montant et n'ont pas assez d'énergie pour descendre. Donc je pense que chacun a ses définitions, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris, je pense, par toute mon éducation en montagne, en fait, c'est très bien beau de monter, mais si on revient mort, donc il faut descendre, il faut ne pas avoir d'enjure, c'est ça le but, c'est d'arriver en bonne santé, en pleine forme, mais chacun définit, en fait, son projet de manière différente. Mais pour moi, en fait, la cime, c'était la moitié de l'effort. Il faut rester concentré. Le sommet, j'étais très contente, le vent commençait à tourner, donc je suis restée maximum 5-10 minutes. Toute la montée, c'était assez, assez régulier. Mais voilà, j'ai vraiment senti la cassure du sommet au Grand 4. J'étais physiquement épuisée. Ça ressemble à un fin d'un Ironman. Les 10 derniers kilomètres du marathon, on est épuisé. Donc c'était le moment physique pour moi qui était le plus difficile. Sauf que là, ça dure beaucoup plus de temps. Hein. Ça me durait de 10h du matin le sommet jusqu'à 4h le Grand 4. Donc quasiment 5-6h d'effort où j'étais épuisée. Et après une nuit de bonne récupération, on se réchauffe, on mange et on dort, surtout parce qu'on a quasiment pas dormi depuis 36 heures plutôt. Les deux journées de descente, camp 4, camp 2 et camp 2, camp de base, c'est bien passé, il faut rester vigilant. Mais je pense que voilà, chacun définit sa cime. Moi, ma cime, c'était pas le sommet. C'était le camp de base, saine et sauve. Mais ça dépend justement de la disposition d'esprit qu'on a, je pense.
Et donc, du coup, pour toi, le moment euphorique de ça y est, je l'ai fait, c'est quand tu étais redescendu au camp de base, en fait. C'était pas
c'est ça. Et là, j'ai lâché. Et messieurs, j'ai lâché à ce moment-là.
Alors, t'as lâché, c'est-à-dire tu pleures, tu cries de joie, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps à ce moment-là? Comment tu te sens?
Je pense que j'ai reçu à ce moment-là tous les messages de soutien des gens qui m'avaient suivi par GPS, donc ils savaient que j'avais réussi le sommet. Donc ça faisait plus de 10 jours que j'avais pas eu de messages. Donc je pense l'émotion à la fois de de toutes les personnes qui sont chères. J'ai interviewé pour mon projet des sportifs de haut niveau. Je soutiens la cause de la recherche médicale qui m'ont soutenue, la presse, des amis proches, la famille proche. Donc je pense que tous les messages d'encouragement et puis de félicitations, je pense que ça joue beaucoup à ce moment-là. Donc effectivement, je suis émotive alors que j'ai pleuré, parce que aussi c'est un projet, voilà, que j'ai vraiment mené depuis plus d'un an. Donc aussi c'est la fin de tout un projet qu'on mène depuis une longue période, en fait, avec toutes les phases et les incertitudes dans cette période. Donc je pense que c'est la réalisation que voilà, ce projet de surtout un an, en fait, se boucle. Voilà.
Quand on dit qu'on prend de l'oxygène, on dort avec l'oxygène, on continue à monter avec l'oxygène, est-ce que c'est de l'oxygène pur? J'imagine que c'est plutôt le mélange de l'air dans lequel on bonifie un peu d'oxygène.
Alors non, c'est pas la plongée. Donc la plongée, on est dans un milieu complètement hostile, d'eau. Donc là, il faut effectivement avoir une grosse part de diazote pour mélanger à l'oxygène. Les bouteilles de montagne sont spécifiques pour l'alpinisme. Ce sont des bouteilles qui sont d'ailleurs pas, on me critique toujours, mais c'est pas du tout des bouteilles qui sont utilisées par exemple dans le milieu médical, ça n'a rien à voir, c'est pas compatible. C'est des bouteilles donc qui sont conçues pour être très très compactes. Donc il y a une énorme pression d'oxygène pur. Il y a un régulateur qui maximum envoie, ça c'est le grand grand maximum, hein, 4 litres par minute d'oxygène. Généralement, on commence à 1 litre d'oxygène par minute et on monte à 2. 3-4, c'est vraiment pour l'urgence, pour le cas où on est tombé dans une crevasse et qu'on a une urgence et qu'on met à plein fou l'oxygène à 3-4. Donc c'est de l'oxygène pur. Par contre, le masque est spécial, c'est-à-dire que le masque, il y a aussi un espèce de filtre à côté qui permet de faire rentrer l'air ambiant. Donc c'est là où on mélange l'air ambiant qui a du diazote avec l'oxygène pur qui sort directement de la bouteille. Donc ça permet d'avoir des bouteilles qui sont relativement très 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 légères, très compactes, avec une énorme pression en oxygène pur.
Et une autre question qui est plus technique, on te voit en visio sans lunettes. J'ai vu quelques photos sur internet où justement tu portes des lunettes et notamment au sommet. Est-ce que d'un point de vue pratico-pratique, au quotidien tu portes des lentilles et là, pour le sommet, tu as plutôt sorti les lunettes ?
Voilà, tout à fait. Merci pour la remarque. Ça a été pour moi un gros investissement. Ça a été d'avoir des lunettes de soleil à ma vue, qui soient aussi progressives et photochromiques, c'est-à-dire qu'elles teintent avec le soleil. Pour moi, voilà, je porte normalement des lentilles. Je suis assez myope. Et les lentilles, c'est pas possible dans ces milieux-là, parce qu'ils gèlent avec le froid. Parce que même si on a le masque, il y a le vent qui rentre et qui sèche la lentille. Ce qui m'était passé sous le Peak Leaning, j'avais fait avec une seule lentille mon sommet parce que une lentille s'était barrée avec le vent, asséchée avec le vent. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on a le visage bouffi par un peu d'œdème d'altitude quand on dort et que le lendemain, en fait, vous n'arrivez pas à votre œil, il est un peu bouffi, les paupières sont bouffies. Ou l'autre problème que j'avais aussi au Peak Leaning, c'est que j'avais eu des engelures du premier degré et en fait, je ne pouvais pas utiliser mes doigts pour mettre et enlever la lentille. Donc, il y a énormément de problèmes avec lentilles, notamment le risque majeur, c'est l'infection de la cornée, la kératite. Donc c'était un veto pour les lentilles. Donc j'avais beaucoup de paires, parce qu'on perd toujours une paire de lunettes ou on en casse une. Et le problème, c'est pas tellement de continuer à monter, c'est de descendre sans tomber. Donc j'avais beaucoup de paires de lunettes à ma vue, effectivement, par-dessus lesquelles je mettais un masque normal de ski.
Bon, alors c'est bon à savoir, hein, parce que moi aussi je porte des lentilles et du coup j'ai déjà eu des déconvenues des fois, notamment en triathlon. Donc je saurai, le jour où je monterai à l'Everest, il faudra que je prenne plutôt les lunettes.
Je m'étais renseignée, je voulais faire la technique au laser, vous savez, où vous corrigez. Et en fait, il faut surtout pas partir après ces techniques au laser. Ça, un œdème cicatriciel. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que le laser, quand c'est récent, c'est encore une partie fragile de la cornée et qui peut, avec l'altitude, je ne sais pas par quel mécanisme, mais c'est connu en ophtalmologie, créer un œdème là où ils ont mis le laser, c'est-à-dire là où ils ont coupé. C'est la cicatrice, si vous voulez, et vous pouvez avoir un œdème. Et le problème, justement, c'est de monter... vous pouvez avoir un œdème, justement, lésionnel de cette cicatrice du laser, d'autant plus quand le laser a été récent. En altitude, bien penser à ne pas faire une opération au laser avant de monter en alpinisme, ça c'est clair.
Alors quand tu dis avant, c'est une question de temporalité, une question de temps, ou si tu as été opéré un jour au laser, c'est rédhibitoire.
Alors moi, ce que j'avais discuté avec un ophtalmo, c'est une question d'année. Alors il faudra demander à un ophtalmo, au bout de combien d'années on peut se permettre de partir en altitude avec ce genre de cicatrice. Je peux pas vous dire exactement.
C'est bien que tu me le dises aussi, parce que tu vois, du coup, je le note, j'ai subi une opération, une grève de la cornée, donc j'espère que j'aurai attendu assez d'années, du coup.
Voilà, il faut bien, voilà, bien se renseigner avec l'ophtalmo, ouais. Pas tous les ophtalmos ne savent d'ailleurs.
Alors forcément, tu l'as dit, ta cime, ton sommet à toi, il n'était pas quand tu étais en haut, quand tu étais à la cime et quand tu es redescendu. Rappelle-nous combien de temps ça a pris pour redescendre. Et puis peut-être juste une chose, tu nous as donné les altitudes des différents camps de base, mais la cime que toi, tu as atteinte, elle était à quelle altitude ?
Donc le sommet de l'Everest est à 8848 mètres d'altitude, donc quasiment 9000. Pour répondre aux questions des temporalités, donc moi je suis arrivée à 10h du matin au sommet, ça m'a mis 5-6 heures pour redescendre au camp 4. En plus, on dort une nuit plutôt. Et ensuite, il faut un jour pour descendre du camp 4, donc qui est quasiment quasiment à 8000 jusqu'au camp 2 qui est à 6300 mètres. Et ensuite, un jour du camp 2 pour aller au camp de base qui est à 5300 mètres. Donc il faut une moitié de journée, plus deux jours pour tout redescendre.
Wow.
Une fois que tu arrives au camp de base, bon là tu es saine et sauf entre guillemets, c'est bon, t'es dans la vallée entre guillemets. Enfin, je dis entre guillemets parce que t'es quand même à...
5300.
Okay. Et donc à partir de là, c'est une balade en fait, le retour.
Tout à fait. Alors, il y a quand même eu un tremblement de terre, parce que je confonds toujours les deux années 2014 et 2015. Il y a eu une année où il y avait une avalanche et l'autre année où c'était le camp de base qui a été emporté. Donc, le camp de base est toujours, pas 100% sécur, mais ça reste quand même le camp le plus civilisé, bien sûr, par rapport à tous les autres camps supérieurs.
Ok. Et donc, de là, bon, tu redescends en mode rando jusque là. Alors, c'est quoi la petite ville dans le coin?
Luc, là, c'est une ville qui est accessible par avion. Voilà. Donc, c'est en bas de cette vallée. Et ensuite, il faut attendre. Moi, j'ai été bloqué quelques jours à Luc. Là, j'ai été bloquée parce que l'avion ne pouvait pas venir, la météo n'était pas assez bonne, donc il faut attendre pour qu'un avion puisse venir et nous emmener ensuite sur Katmandou.
Au moment où on enregistre cet épisode, tu es à Katmandou, sur le point de revenir en France, du coup.
C'est ça, je suis, j'attends un avion de retour.
Et de retrouver une vie normale, entre guillemets.
Je pense que chacun a sa définition de normalité. Je pense que pour moi, la vie, c'est un cheminement et on évolue. On n'est jamais au même point, en fait, dans sa vie. On avance toujours. Je vais redécouvrir une vie qui continue, c'est ça. Mais je sais pas si c'est normal, mais c'est le cheminement de ma vie, quoi, en fait, effectivement.
Ouais, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est justement de revenir dans l'épisode de demain, de ce que sera cette nouvelle normalité pour toi, et puis de parler de tes projets futurs, si tu les as déjà en tête.
Avec plaisir.
À demain.
Super, à demain.
À demain.
Vous avez apprécié cet épisode ? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcasts.